Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
C'est Julie Gerbet du podcast À Poil et avant d'écouter votre épisode, j'aimerais partager avec vous, mes chers auditeurs, restaurateurs, entrepreneurs, dont l'emploi du temps est millimétré et les finances mises à mal par l'inflation, ma découverte d'une solution assez idéale, je dois dire, en cas de besoin express de cash. Lancée par BPI France, la banque d'investissement française soutenue par l'État, les prêts flash permettent d'emprunter en deux temps trois mouvements, en ligne et sans paperasse superflue, jusqu'à 75 000 euros, avec un déblocage des fonds en 7 jours. Rénovation énergétique, innovation, développement marketing ou renfort de trésorerie, tous les besoins sont bons. Alors rendez-vous sur flash.bpifrance.fr.
Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir...
Bonjour et bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet, la créatrice et hôte de ce podcast, et aujourd'hui je rencontre Yulin Li.
Au début, par exemple, pour faire découvrir le saké, je servais tous les sakés dans des verres à vin pour casser l'image du saké avec la femme ou l'homme nu au fond du verre. Et pour moderniser le saké. Sauf qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte que tout ne marchait pas dans le verre à vin. Il y avait des sakés qui étaient plutôt destinés à des verres à vin et des sakés qui étaient plutôt destinés à un mode de consommation classique avec une petite coupelle de saké. Et ça, j'ai mis beaucoup de temps à faire la distinction entre ces deux types de saké. Et j'ai mis beaucoup de temps aussi à apprécier les deux types de saké. À un moment, j'étais plutôt pour des sakés qui étaient fleuris et fruités, qui se buvait comme du vin et qui ressemblait à du vin. Et c'est vraiment que très récemment en fait, que je m'intéresse maintenant à tous les sakés nouveaux, mais aussi plus traditionnels.
Yulin Li est derrière plusieurs établissements parisiens d'envergure, comme la Maison du Saké et Sola. Mais c'est aussi et surtout l'ambassadeur du saké à Paris, produit qu'il a contribué à faire connaître aux restaurateurs et au grand public français. Ce grand passionné du Japon officie souvent dans l'ombre, mais c'est selon moi un des restaurateurs français qui a contribué le plus à faire bouger les lignes ces 10 dernières années, en ouvrant Gilo Gilo, le saké bar ou la pâtisserie Ciel. Avec Yulin, caché dans les profondeurs de la Maison du Saké, nous avons parlé de comptoir, d'apprendre sur le tas, de Kyoto et bien sûr de saké. N'oubliez pas, le partenariat avec Elle à table continue et vous pouvez retrouver chaque nouvel épisode sur le site elle.fr 48 heures avant sa sortie sur les plateformes habituelles. Et maintenant, bonne écoute. Bonjour Yulin.
Bonjour.
Notre première rencontre remonte à l'inauguration du Yulin. Le soir de l'inauguration, c'était en 2007. C'est ça?
C'est exactement 2007. Ça, en 2007, oui.
Il y avait une copine japonaise qui m'avait traîné à une soirée dans cette nouvelle izakaya qui était inaugurée. C'était la première fois, je pense, que j'entendais le mot izakaya. On commençait à découvrir ce genre d'établissement en France. Et tu as ouvert, ça ne s'invente pas, en lieu et place du premier restaurant japonais parisien.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Takara, si c'est bien ça. Si
c'est Takara, l'ancien Takara, oui.
Qui avait ouvert en 58.
Exactement, 1958.
T'avais envie de faire découvrir le Japon tel que tu l'as connu là-bas ?
J'étais revenu du Japon depuis seulement un an, puisque j'avais pu vivre au Japon à Kyoto en 2005-2006, où j'ai travaillé dans un restaurant japonais qui s'appelle Gilo Gilo. Et à mon retour, donc, j'ai aidé à monter ce restaurant à Paris, qui existe toujours à Montmartre. Et par la suite, j'ai monté donc mon propre restaurant, Izakaya Yulin, près du Panthéon, à la place de Takara, exactement.
C'est au Japon que tu as rencontré la gastronomie et le saké aussi.
Donc à Kyoto, quand j'ai travaillé un an chez Gilo Gilo, c'était un comptoir de 12-13 places avec 4-5 services le soir.
Sur le même modèle qu'à Paris, dans l'esprit.
Exactement, dans le même esprit, un menu omakase. Et déjà, donc le saké était mis à l'honneur. Les gens on proposait déjà aux gens un accord avec du saké, et donc je m'occupais de les servir. Hein, et souvent, la tradition voulait que les gens servent aussi les serveurs. Donc, on passait quand même de belles soirées. J'ai pu goûter beaucoup de saké. C'est ainsi que je suis formé d'ailleurs, grâce au contact de la clientèle, le fait de boire avec eux. Souvent, même tous les soirs.
Les clients servent les serveurs. Enfin les...
Ouais. Comme c'est un comptoir et qu'on est très très proche des clients et qu'on parle avec eux, et au bout de 20-30 minutes, on devient presque pote. Et après, ça finit toujours par trinquons ensemble. Mais 4-5 services, le trinquons ensemble, il fait beaucoup à la fin.
Comment t'es arrivé dans la gastronomie? Puisque j'ai lu que t'avais fait une année, enfin, j'ai pas très. Une année d'échange au Japon pendant ton lycée.
Alors j'ai pu vivre deux fois au Japon, une première fois exactement quand j'étais lycéen, une deuxième fois un peu plus tard avec cette expérience de Gilo Gilo. Et c'est vraiment à Kyoto que j'ai découvert la gastronomie japonaise, avec ce modèle omakase, hein, maintenant que c'est un mot que les gens commencent un peu à connaître mais qui était inconnu, donc un menu... sans carte, avec un menu imposé, avec plusieurs plats qui défilent. Et j'ai trouvé l'idée chouette, et c'est ce que je voulais faire en France. Donc il y avait encore peu de menus omakase dans les années 2007-2008. Et c'était assez nouveau à l'époque. Ouais.
Et là, t'étais rocker quand t'étais au Japon? Enfin, quand t'es arrivé au Japon, ou qu'est-ce que t'as
avant fait, de faire la restauration, j'ai fait de la musique pendant longtemps. J'en ai fait à peu près pendant 10 ans. J'étais bassiste. Et je jouais dans plusieurs groupes en tant que bassiste, arrangeur, compositeur.
Et t'aimais déjà la gastronomie? T'allais manger dans des restos? Tu connaissais ça?
Non, pas la gastronomie pour être franc. J'ai quand même des origines variées. Mon père est chino-cambodgien, ma mère est tunisienne. Donc manger, j'ai toujours aimé avec des plats de différents pays, que ce soit des pays arabes, que ce soit des pays asiatiques, que ce soit de la France. Hein. Et j'ai toujours beaucoup aimé manger, mais je ne connaissais pas encore vraiment la gastronomie comme on l'entend maintenant. Mais manger, c'était déjà une passion. Oui.
Et comment t'es arrivé, au Japon déjà à 16 ans?
Alors la première fois que je suis parti à 16 ans, c'était un peu le hasard des choses. J'ai voulu partir à l'étranger, faire une sorte de voyage... De formation, et j'avais choisi plusieurs pays, dont le Brésil et l'Irlande, le Japon. J'aurais pu partir au Brésil et faire autre chose. Ça a été le Japon. Ça a été un vrai choc pour moi, puisque je connaissais à travers les jeux vidéo et les mangas, enfin les dessins animés à l'époque, mais c'est tout. Et je ne parlais pas un mot, je ne connaissais pas la langue. J'avais une image du Japon beaucoup plus futuriste, et un petit peu l'image qu'on a dans les dessins animés. Et en fait, c'était assez strict et c'était assez dur la première année.
En tout, tu étais vraiment étudiant, enfin lycéen.
J'étais vraiment lycéen.
Ouais. T'allais à l'école.
J'avais l'uniforme japonais. Je faisais mes maths, ma physique, ma chimie en japonais.
En japonais.
Sachant que je parlais pas un mot, donc j'ai dû apprendre très très vite le japonais.
Et aujourd'hui, tu parles couramment?
Et aujourd'hui, je parle couramment japonais. La moitié de mon équipe est japonaise, donc je parle pratiquement autant japonais que français tous les jours.
Après, t'as eu envie d'y retourner? Et c'est là-bas que t'as rencontré la guest. Enfin, comment t'es arrivé chez Gilo Gilo en fait?
Après mon expérience au Japon, je suis rentré en France. J'ai pu faire quelques voyages au Japon, mais effectivement, j'avais l'impression d'avoir pas fini mon année et qu'il me manquait quelque chose. Et donc j'ai voulu retourner y habiter. Donc c'était en 2005-2006. Et comme la première fois que j'étais parti, j'étais allé à Tokyo, je voulais aller dans une autre ville, donc j'ai choisi Kyoto, et j'ai rencontré le chef de Gilo Gilo dans un café, tout simplement. J'étais en train de lire un livre, je sais plus lequel, un livre français, et puis il s'assoit à côté de moi, et, bon, je crois que c'était le petit déjeuner, il me fait « t'es français ?» Je lui dis « oui ». Il me dit « qu'est-ce que tu fais à Kyoto ?» Je lui dis « je sais pas ». Il dit « viens travailler chez moi ». Je fais « d'accord ».
C'était déjà une star, non, là-bas?
Et c'était en plus, ouais, c'était vraiment l'époque où il était archi-médiatisé, où il passait à la télé. Mais bon, je le connaissais pas, je savais même pas qu'il avait un restaurant. Il me dit, viens travailler chez moi, et je savais même pas où j'allais. Je savais pas que c'était un restaurant. Je cherchais un boulot, fallait payer mon loyer. Je rencontre quelqu'un comme ça qui tombe du ciel, qui me dit, viens travailler. Je fais, ok, j'arrive. et là, le premier jour, je fais direct en cuisine, il me fait les préparations, il me donne un couteau de cuisine. Il me donne à faire les préparations pour les sushis, pour le riz. C'était une catastrophe le premier jour.
J'imagine, ouais. T'avais jamais tenu un couteau, rien.
Non, jamais, non.
Et là, tu commences avec la star
c'est
locale.
Ça. Et en plus, les couteaux japonais, c'est une horreur. Hein. Ça coupe tellement bien que j'en ai eu des blessures.
Donc, tu as continué en cuisine au début?
Et oui, non, pendant toute l'année, en fait, le soir, je faisais le service, mais l'après-midi, je faisais les préparations. Donc, j'aidais à faire toutes les prépas. J'étais commis de cuisine. Et le soir, le service où je m'occupais des boissons et aussi de la plonge.
Tout terrain.
Ouais, c'est...
Bon, en tout cas, c'était formateur.
Ah, c'était une super expérience. C'était beaucoup de découvertes dans la céramique, dans les produits, les plats, les sauces. Mais aussi, c'était beaucoup de rencontres humaines puisque c'était un comptoir. Donc, les gens qui venaient à manger à 18h30 et ceux qui venaient à 23h, ce n'était pas du tout les mêmes personnes. Non, c'était assez enrichissant.
Et il t'a dit, le chef, pourquoi il t'avait embauché? Enfin, est-ce qu'il avait... Enfin, c'est parce que c'était français ou ça l'a interpellé ou parce que quand même, t'avais aucune expérience. Enfin, c'est rigolo.
Non, mais pour lui, je pense que c'était plus pour... un peu pour s'amuser. Il voulait avoir un étranger et surtout, en plus, un français. Je pense qu'il avait déjà une attirance pour la France. Et il s'est dit, tiens, une opportunité. Il est là, il n'a pas de boulot.
Allons-y.
Il m'a l'air sympa, allons-y, quoi.
C'était rock.
Et ça a bien matché, hein, c'était cool.
Et après, il t'a dit, j'ai envie de venir ouvrir à Paris, c'est toi qui l'as convaincu?
Oui, un an après, je pense qu'il avait déjà un petit peu en tête. Hein. C'était pas, je pas beaucoup, beaucoup de... J'ai pas eu besoin de le convaincre, forcément. Il avait déjà en tête de venir à Paris. Et il était, comme tu disais tout à l'heure, très médiatisé. Donc, il avait déjà pas mal de choses à faire à Kyoto. Et moi, mon année finissait, donc ça tombait bien. Donc, il m'a demandé, je lui ai dit OK. Et puis, je me suis occupé de son ouverture.
Donc, tu as tout géré, l'ouverture, les travaux, première ouverture de restaurant pour toi?
Ouais, pareil, là, c'était dans le bain, sans expérience. Je ne sais pas ce que c'était une SARL, une SAS. J'avais monté de business plan. J'avais rencontré d'architectes d'intérieur. Effectivement, moi, j'ai encore appris sur le tas. C'était violent quand même.
Oui, en plus, vous avez travaillé avec un... je ne sais plus le nom de l'architecte.
Christophe Pillet.
Ouais. Et ouais, t'as tout appris. Et pareil, l'ouverture a été hyper médiatisée, je me souviens.
C'était, il faut remettre aussi les choses dans le contexte. Il n'y avait pas encore la puissance d'Internet qu'il y avait à l'époque. Il y avait beaucoup moins de restaurants que maintenant, voire très peu. Il y avait beaucoup d'institutions. Et des restaurants japonais encore moins. Et donc, effectivement, quand on a vu cet ovni débarquer à Montmartre, aux Abbesses, parce qu'aux Abbesses, il n'y avait vraiment que des restaurants pour touristes à l'époque. Les gens étaient c'était hyper curieux, donc effectivement on a eu pas mal, même beaucoup de presse à l'époque.
Ouais. C'était incroyable, et en plus ce côté, c'était une autre vision de la gastronomie japonaise. Tu parlais du menu omakase qui était pas, enfin je sais pas s'il y avait déjà des équivalents, des autres restaurants qui servaient ce genre de menu à Paris.
À ma connaissance, je ne pense pas. En plus lui, il est un peu rock, hein, donc même dans la gastronomie japonaise, c'était déjà différent de ce qu'on trouvait au Japon. Alors en France, à Paris, c'était encore plus incroyable. Il avait demandé quand même à Christophe Pillet de faire le restaurant, et c'était quand même réussi, et c'était assez novateur d'avoir tout noir, un carré ou... non, c'était vraiment un restaurant, même maintenant, un restaurant, je pense, unique.
Oui, qui reste... il continue à faire un mois sur deux?
Il continuait, mais malheureusement, il a fermé.
Ah, il a fermé?
Il a fermé en août ou en septembre. Septembre, je crois, pour des raisons de santé. Donc, il va se concentrer sur Kyoto.
Mais sinon, il a fait les allers-retours.
Sinon, il faisait les allers-retours tous les deux mois.
Hein, ouais. C'est ça. C'est cool, tu vois, c'était pas juste une signature, en plus, il venait vraiment une semaine, enfin un mois sur deux.
Et c'était un show, hein. Les gens venaient pour lui, donc les gens réservaient tous les mois. Et donc tous les mois, le menu changeait. Et ils étaient contents de le retrouver tous les mois et ils se donnaient à fond. Tous les deux mois, ils étaient à Paris et tous les soirs, ils parlaient avec les gens. Il y avait vraiment un contact humain qui était incroyable.
Et toi, ça t'a, enfin, ce baptême du feu t'a donné envie d'ouvrir ton propre restaurant. C'est comme ça que Yulin est née.
Exactement. Et ce comptoir était important pour moi. Donc, l'Izakaya Yulin, c'était quand même la moitié des places, c'était en comptoir. Et j'ai pendant 2-3 ans, avant que le Sola ouvre, j'ai perpétué la tradition où tous les gens venaient au comptoir et on discutait, et ça finissait à pas d'heure et il y avait cette proximité avec le comptoir. Non,
tu faisais la cuisine à l'époque, je me souviens.
Non, j'étais non. que en non. salle. Ouais, faisais, et donc en cuisine, j'avais pris un chef japonais, ce qui était assez nouveau parce que les Japonais à Paris... était plutôt en tant que chef de partie ou en second, mais on leur laissait très peu à l'époque hein, de carte blanche pour faire la carte. Donc j'ai vu beaucoup de chefs japonais faire quelques mois ou voire une année. Et pour eux, c'était génial parce que c'était un petit restaurant, ils pouvaient s'exprimer, faire leur propre carte. C'était un vrai terrain de jeu pour les premiers chefs japonais. Ouais.
Et c'est là que tu as commencé à faire découvrir le saké aux Français?
C'était le but.
C'était, le but,
c'était ouais. le but. Pour moi, c'était plus en mode izakaya avec des plats pour accompagner la boisson. Et au fur et à mesure, parce qu'il y a quand même un vivier de chefs japonais et encore très peu de restaurants tenus par des chefs japonais à Paris, la qualité des plats a monté. C'est devenu un restaurant qui était, enfin, où les gens venaient plus pour manger que boire, mais à l'origine, c'était plus pour boire que manger.
Je me souviens encore de la soirée d'inauguration.
Ouais, aussi.
Complètement. On avait fini. Bref.
Le saké, quoi.
Et le saké, tu disais que tu as appris en goûtant beaucoup. Après, est-ce que tu as fait des formations? Enfin, j'ai vu que tu avais eu un titre. Comment il s'appelle ce titre?
De saké samouraï.
Ouais, saké samouraï. Bon, j'imagine que tout ça a été un cheminement un peu, mais est-ce que tu te souviens des... Tu vois, comment tu as eu la révélation? Enfin, est-ce qu'il y a eu des choses vraiment qui t'ont marqué?
Bah, pour revenir à la révélation, à ma première révélation avec le saké, c'était quand j'avais 16 ans. J'ai pu boire une goutte de saké. J'avais ma famille d'accueil qui m'avait invité dans un des meilleurs restaurants de sushi du quartier d'où j'habitais. Ils m'ont autorisé à boire, parce que j'avais pas le droit de boire, hein, j'avais 16 ans. Ils m'ont autorisé à boire une larme de saké. Et je pense qu'ils n'ont pas choisi le plus mauvais. Hein. C'était un saké incroyable avec un maître sushi qui fait les sushis devant toi à la minute. Donc le poisson, c'était un ensemble. Et ça m'a gardé. C'était un souvenir. C'était un souvenir que je ne peux pas oublier. C'était vraiment incroyable. Donc ça, c'était mon premier souvenir du saké. Mais après, ça a été un long chemin et jusqu'à très peu, en fait, pour vraiment essayer de comprendre et faire découvrir et faire apprécier le saké. Et même maintenant, j'apprends encore des choses. Ça reste un alcool qui n'est pas figé, qui évolue. Les maisons de saké évoluent, elles se rajeunissent. C'est moins strict au niveau des appellations qu'en France sur le vin. Donc, ils sont plus libres d'essayer des nouvelles choses.
Il y a une créativité. Enfin, il peut y avoir en tout cas une créativité autour de ça.
Exactement. Et puis le retour que j'ai aussi des Français, de la clientèle, moi m'éduque. C'est-à-dire qu'au début, par exemple, pour faire découvrir le saké, je servais tous les sakés dans des verres à vin pour casser l'image du saké avec la femme ou l'homme nu au fond du verre. Et pour moderniser le saké. Sauf qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte que tout ne marchait pas dans le verre à vin. Il y avait des sakés qui étaient plutôt destinés à des verres à vin et des sakés qui étaient plutôt destinés à un mode de consommation classique avec une petite coupelle de saké. Et ça, j'ai mis beaucoup de temps à faire la distinction entre ces deux types de sakés. Et j'ai eu beaucoup de temps aussi à apprécier les deux types de sakés. À un moment, j'étais plutôt pour des sakés qui étaient fleuris et fruités, qui se buvait comme du vin et qui ressemblait à du vin. Et c'est vraiment que très récemment en fait, que je m'intéresse maintenant à tous les sakés nouveaux, mais aussi plus traditionnels.
Et t'as appris sur le tas, en fait, en buvant, en
toujours
testant,
sur le tas.
Ouais. T'as visité des fabriques, j'imagine, aussi sur place.
J'ai visité beaucoup de fabriques. Grâce donc à la maison du saké qui est devenue un peu une ambassade, j'ai quand même beaucoup d'invitations de la part du Japon par les préfectures. Donc à chaque fois que je fais un voyage au Japon pour visiter les préfectures, je visite entre 10 et 20 maisons de saké. J'y vais après 4 à 5 fois par an. Donc ça fait une centaine de maisons par an.
Ah, mais ça fait pas mal.
Donc ça fait pas mal, ouais.
Et alors le saké, juste pour dissiper tout malentendu, c'est du riz. poli, fermenté avec de l'eau.
C'est ça, et des levures.
Et des levures.
Qui peut être indigène ou non indigène, mais effectivement, le saké, nous, on le résume en trois mots, c'est l'eau, le riz et la main de l'homme. C'est pour ça que le restaurant de la maison de saké s'appelle R-E-R-H, E pour eau, R pour riz et H pour homme.
Et il y a des histoires de terroirs ou...
Alors, il n'y a pas de terroir comme on peut l'entendre pour le, comme pour le vin, puisque on peut utiliser des riz qui ne sont pas de sa région. Contrairement au vin, où on est obligé d'utiliser le riz de l'appellation. Le raisin. Mais par contre, il y a quelque chose qu'on ne peut pas bouger, c'est l'eau. Donc, le producteur ne le met pas forcément en avant, mais il peut le mettre en avant. Et on peut dire pour certains types de saké qu'il y a un terroir de l'eau. Il faut savoir que l'eau représente comme une grande partie de l'intérieur du Japon. C'est à peu près 4%, c'est moins d'1% en France. Donc c'est un trésor national, l'eau, au Japon. Et les riz, on commence de plus en plus à avoir des producteurs, même s'ils peuvent acheter des riz d'autres régions, préfèrent utiliser des riz locaux. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de notion de terroir, mais ça commence à arriver. Et puis il y a vraiment cette notion d'eau. L'eau est vraiment très très importante pour le saké.
Est-ce qu'il y a une notion de nature comme on le voit pour le vin ici ?
On commence à avoir une catégorie de saké nature qui est un peu différente de la signification que de la catégorie de vin nature, qui est plus sur le travail des levures, puisque... Donc le saké, on rajoute des levures qui sont fabriquées en laboratoire. Donc ce sont des levures créées à partir de levures naturelles. Et il y a certaines maisons de saké qui utilisent des levures naturelles, c'est-à-dire c'est tout ce qu'il y a dans le
dans
bois,
l'air.
Dans la pièce, dans l'air, qui retombe dans les cuves. Ouais.
Comme pour le vin, enfin quand oui, comme ça peut être fait pour le vin, où on rajoute pas de, on utilise la levure qui est intrinsèquement dans le raisin.
C'est ça, exactement.
Et c'est quoi un bon saké ?
Alors, un bon saké, c'est déjà un saké où il n'y a que ces trois ingrédients, qui est l'eau, le riz et la main de l'homme. Enfin, quand je dis la main de l'homme, ce sont les levures, hein, mais c'est quand même l'homme qui fait travailler ses levures. Un mauvais saké, c'est quand on rajoute des choses, puisqu'on a le droit de rajouter, par exemple, des alcools de distillation, d'autres alcools dans le saké pour produire, et plus d'eau pour produire plus. Donc, pour moi, un bon saké, déjà, c'est un saké où il n'y a que de l'eau, du riz et de l'homme, ce qu'on appelle en japonais des junmai.
D'accord. Ah, junmai, ça veut dire ça.
Exactement.
Je ne savais pas du tout. C'est vrai que je voyais souvent ce terme et je me suis toujours demandé ce que c'était.
Jun, ça veut dire pur, c'est-à-dire 100%. Et mai, c'est le riz. Donc, ça veut dire que du riz, il n'y a pas de rajout d'autre alcool.
Et donc, dans ta progression, donc, je reviens à saké bar. Donc, tu changes le nom à un moment. Tu affirmes cette volonté d'être... Première maison, enfin en tout cas bar du saké.
Ça se passe au moment où j'ouvre le restaurant Sola. Donc là, du coup, j'ai vraiment séparé les deux restaurants. Donc un qui est consacré à la gastronomie, le Sola, et l'autre qui est consacré au saké, le saké bar.
Et t'avais, pour Sola, t'avais envie de faire quelque chose de plus ambitieux sur la gastronomie.
Ouais, en fait, j'ai eu la chance de travailler avec parmi les différents chefs qui ont travaillé à Izakaya Yulin, il y en avait un qui était un peu plus doué, en tout cas qui ressortait du lot. Et qui avait envie d'aller de l'avant, de faire quelque chose. Et je me suis dit, c'est le bon chef, c'est le bon moment. Et donc, c'est parti une rencontre encore. Et effectivement, et cette opportunité au 12 rue de l'hôtel Colbert, hein, pas très loin de l'Isaac Ayuline, toujours dans le 5e.
Dans l'ancien restaurant d'Hélène Darroze.
Exactement.
Enfin, le bistrot qu'elle avait. Ouais.
Et donc,
d'envergure.
Qu'elle avait fait. Ouais. Nous, on a pu récupérer un endroit qui était déjà exploitable. Le chef était à l'époque à Singapour. Il avait ouvert un restaurant là-bas, mais ça ne se passait pas très bien. Et donc, je l'ai appelé. Il m'a dit OK. Et il n'a pas réfléchi. Il m'a dit OK tout de suite au téléphone. Et ça s'est fait assez rapidement.
Et après, vous avez réussi à... Enfin, vous avez rapidement l'étoile.
Oui, c'est allé assez vite. Tout allait très vite. On a ouvert mais il y a 10 ans, pile, en décembre 2010. Donc
déjà,
là, cette année, on va fêter les 10 ans du Zola. Ça va vite. Donc, on est ouvert en décembre 2010. Et un an après, donc en 2012, parce que le Michelin, c'est en début d'année. Donc un an après, on a eu la première étoile Et encore une fois, sur le tas, j'ai appris la gastronomie, puisque la gastronomie, pas que dans la cuisine, mais dans le service, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Et c'était assez rock'n'roll aussi la première année.
Parce que t'étais vraiment en salle.
Parce que j'étais vraiment en salle, ouais. Et je m'occupais un petit peu de la sommellerie, beaucoup du service. Et j'y connaissais rien. Moi, j'avais travaillé dans mon bistrot dans le 5e avec le comptoir. J'ai travaillé en comptoir, je savais faire.
Dans une ambiance, quand même.
Mais la gastronomie, c'est encore différent, le service de la gastronomie. Heureusement que j'étais quand même entouré, j'étais pas seul. C'était quand même une plus grande équipe, un plus grand restaurant. Donc, il y avait des gens professionnels qui étaient avec moi. Mais ouais, c'était une nouvelle expérience.
Et là, tu te dis, bon, ça suffit pas, je vais ouvrir une pâtisserie.
On a eu encore une opportunité, il y avait pas très loin un endroit qui se libérait. Et effectivement, c'était aussi un petit peu la mode des monoproduits à l'époque, il y en a beaucoup qui s'ouvraient. Et parmi les gâteaux qu'on avait déjà faits, il y avait ce angel cake, chiffon de cake, gâteau très léger. Et voilà, donc
là, tu ouvres une pâtisserie d'angel cake.
L'angel cake, autour d'un comptoir, ciel. Ouais.
Et Sola, c'est ciel aussi.
Et Sola en ciel, japonais, ça veut dire ciel. C'est pour ça qu'on l'a appelé ciel, la pâtisserie. Ouais.
Ouais. La petite sœur. Tu dis que c'était trop pointu, ça.
C'était. Ça a bien marché, hein, ça allait très vite. Il y avait déjà un problème de location. Parce que autant pour aller manger le 5e, c'est bien. Autant pour une pâtisserie, c'était pas forcément. Enfin, en tout cas, cette partie des 5e, c'était pas forcément le meilleur endroit. Et le monoproduit, c'est difficile. Hein. C'est toujours intéressant les premières années, mais sur du long terme, c'est compliqué, je pense.
Ouais. Pourtant, c'est vrai que c'était hyper qualitatif et créatif aussi.
Ça marchait bien. On a jamais eu, en tout cas, au niveau des réseaux sociaux, on a eu beaucoup plus de
d'engouement
que le Sola ou le Saké. Les gens étaient. Enfin, on n'avait jamais autant de likes sur les photos sur les pâtisseries.
Ouais, hein. Les pâtisseries, ça attire toujours plus que le saké.
Ou même la nourriture, c'était assez dingue. Mais après, encore une fois, c'était pour nous plus des soucis de production que vraiment un intérêt ou un désintérêt des gens.
Et ensuite, on arrive ici. Là, on est dans les sous-sols de la maison du saké. Comment ça a mûri, combien de temps cette idée, comment c'est venu?
J'avais jamais vraiment lâché le saké, même si j'ai eu quand même quelques années où je m'étais quand même beaucoup consacré à la gastronomie. On avait réussi, grâce à la gastronomie, grâce au restaurant Sola, à quand même à faire découvrir le saké à un autre niveau par rapport à Isaac Ayulin, qui était plus un bistrot. Et donc je sentais un frémissement, un engouement. C'était en 2015, je crois, monté un salon qui s'appelait le Salon du Saké, qui a eu un franc succès, c'était sympa, c'était très bien. Mais derrière, je trouvais que c'était trop tôt pour monter un salon, puisque les gens ne connaissaient pas, il y avait très peu d'endroits encore spécialisés pour acheter du saké, très peu d'éducation au niveau du grand public, même des professionnels. Et je trouvais que c'était encore trop tôt pour continuer à faire un salon. Par contre, il fallait un endroit, il fallait une ambassade, il fallait un endroit où les gens pouvaient venir, pas seulement en one shot, une fois dans l'année, mais tout au long de l'année, pour pouvoir acheter, découvrir, s'éduquer sur le saké. Et donc, j'ai commencé à chercher des endroits, des lieux. Et au début, je voulais monter seulement à une boutique. Puis finalement, en moulinant un peu les chiffres, c'était un peu risqué de se lancer seulement sur du saké. Puis j'ai l'expérience de ciel, donc sur le monoproduit, maintenant je m'y connais. Donc je l'ai attaché à un restaurant, parce que c'était quand même ce que je savais faire avec le restaurant Sola, avec l'Isaac Ayulin. Et donc on a trouvé ici que c'était parfait, puisqu'on pouvait faire plusieurs espaces. Donc la boutique et caché derrière le restaurant. Et pendant longtemps, le restaurant a servi de locomotive, puisque ça a quand même pris du temps avant que les gens viennent acheter du saké. Puis là, on voit depuis quelques années que ça marche plutôt bien, qu'on a commencé à lancer un site sur Internet, on a quand même pas mal de, même beaucoup de commandes. Voilà comment est née la maison du saké.
Et au sous-sol, tu as fait un partenariat avec la maison du whisky?
Exact.
Pour faire ce bar à whisky un peu caché aussi.
On avait donc ce sous-sol qui nous servait au début d'entrepôt pour le saké, parce qu'on importait nous-mêmes le saké, et c'était parfait pour pouvoir stocker nos bouteilles. Mais bon, ça avait quand même sa limite, c'était quand même compliqué. C'est encore un autre métier, importateur. Donc je trouvais que le sous-sol, qui est magnifique, était mal exploité. C'était juste pour stocker, ce n'était pas intéressant. Et puis j'ai tenté, j'ai pu rencontrer la maison du whisky, je leur ai proposé le projet. Je n'ai pas trop à quoi m'attendre, mais je me suis dit que ça pourrait être plutôt sympa d'avoir un bar au sous-sol. Et eux, je crois, cherchaient à l'époque un emplacement et ça a matché. Et c'est devenu en plus un partenaire naturel puisqu'ils étaient spécialisés en alcool. Il y avait quelques sakés à leur carte, mais très peu. Et voilà, c'est devenu un partenaire naturel. Et puis je suis très content du travail qui a été fait au sous-sol. Le lieu est magnifique.
Ouais. Ah ouais, c'est incroyable, je trouve, d'avoir ces deux endroits qui matchent complètement, un sur le whisky, l'autre sur le saké. Ça fait des allers-retours de ping-pong cohérents.
Je suis hyper content du lieu. Du coup, souvent on me demande, mais alors qu'est-ce que tu vas faire plus tard, 1000 mètres carrés la prochaine fois ou 3000? Non, je pense que là, au niveau des... Enfin, je suis hyper satisfait du lieu et j'ai pas trop envie de... Si je veux monter quelque chose, ce serait vraiment quelque chose de très différent. Mais là, le lieu en lui-même, il sera jamais parfait, mais il est pas très loin. Je suis vraiment très content du lieu.
C'est combien de mètres carrés? Parce que c'est vrai que c'est...
Il y a 500 mètres carrés.
500 mètres carrés au cœur de Paris.
Ouais. Et puis au cœur de Paris, et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on est rue Ticton. Et c'est chouette, c'est quand même central, c'est un quartier qui bouge beaucoup. La rue a énormément changé en 5 ans, que ce soit rue Ticton et même les rues à côté, comme la rue Saint-Denis. Et c'est cool d'avoir un endroit sur un produit un peu de niche, enfin sur des produits de niche, sur des sakés pointus, des whisky pointus. Dans un quartier qui est central, qui est populaire.
Tu te voyais, t'avais eu cette idée d'entreprendre comme ça quand tu étais plus jeune?
Ouais, en fait.
Ouais.
Quand j'étais déjà au collège, au lycée, je faisais des fanzines. Je montais des sur la musique, sur différents thèmes. Et on essayait de faire des événements et je faisais pas mal de fêtes aussi. Et c'était pas mal d'organisation. On se réunissait, à l'époque, avec des amis, on se réunissait tous les dimanches au carrousel du Louvre. On faisait des réunions pour savoir qu'est-ce qu'on allait mettre dans l'édito, où est-ce qu'on a imprimé, quand est-ce qu'on allait faire la fête et tout ça. Quand est-ce qu'on allait faire des événements. Et j'avais 14 ans à l'époque.
Ouais. Ouais, donc il y a ce truc d'idées, de mener à bien des idées. Et
de travailler en équipe, d'entreprendre.
Qui était déjà présent.
Ouais.
Et après, ça t'a donné l'impulsion et voilà, et les occasions.
Après, c'est des rencontres, ouais. Des occasions, c'est aussi parfois un peu de chance. Hein.
Et c'est quoi les points communs, si tu pouvais chercher un point commun entre tous tes établissements?
Bah, le premier fil conducteur, c'est facile, c'est le saké, forcément. Toujours, le saké a été un peu la base de tout ce que j'ai fait. Mais après, la proximité, encore une fois, ce que j'ai beaucoup aimé quand j'étais à Kyoto et quand j'ai travaillé à Gilogilo, c'était le comptoir qu'on a retrouvé au début au Sola, parce qu'on avait un comptoir qu'on a enlevé. Puis, je ne sais pas si on en a parlé, il y a eu un incendie au Sola en 2017. Et pour la réouverture, on a dû refaire tout le rez-de-chaussée qui a été brûlé. Et forcément, j'ai mis un comptoir.
Pas mis un comptoir.
Ici, il y a le comptoir à l'accueil. Donc voilà, je suis très attaché au comptoir.
Tu avais vraiment envie de changer le rapport... Enfin, ou est-ce que tu avais envie de changer le rapport à la cuisine japonaise, faire découvrir voilà, ce que toi, tu avais connu, autre chose. Enfin, c'est vrai que depuis que tu as commencé... ça s'est vachement développé à Paris, mais il y a 10 ans, il y avait des restos à sushi, il n'y avait pas. Enfin, tu vois, ouais, on avait une image un peu. Et encore, je pense qu'aujourd'hui, on sait pas tout ce qu'il y a, mais.
Ça a été long, ça a été très long. Alors, même avant ça, dans les années 90, le Japon et la Chine, pour beaucoup de gens, c'était le même pays. et manger du poisson cru, c'était. Enfin, je me souviens, ma mère, c'était impossible, tu pouvais faire bouffer du poisson cru. Et effectivement, et Internet et le fait aussi que les billets d'avion coûtaient moins cher ont énormément contribué à, en tout cas, améliorer la géographie des Français. Et après, arrivé le boom des sushis, hein, de 2000 à 2010, mine de rien, ça a quand même beaucoup aidé, les sushis.
Mais alors moi, que c'est un petit truc finalement.
C'est un petit truc, c'est assez élitiste au Japon, même s'il y a aussi des sushis pas chers, mais l'image qu'on a du sushi au Japon, ça reste quand même des grandes occasions. Et puis c'est devenu un produit hyper marketé, c'est devenu tellement peu populaire que c'était presque à saturation en 2010. Mais ça a quand même permis de faire découvrir le Japon. C'est quand même maintenant devenu une destination hyper prisée de partir au Japon.
Aussi pour les gastronomes.
Pour la gastronomie, même le Japon en lui-même, pour tout. Et donc tout ça, ça m'a beaucoup aidé en 2010, quand j'ai ouvert le Sola, de faire accepter qu'il soit un chef japonais, qu'il fasse de la cuisine française, que le saké soit pas un alcool de distillation très fort, mais que ce soit un alcool qui rapproche le vin. Le discours était beaucoup plus audible que si j'avais essayé de faire la même chose dans les années 2000, par exemple.
C'est arrivé au bon moment.
Je pense.
Voilà, le cheminement.
Mais c'était quand même un pari, puisque encore une fois, en 2010, il y avait peut-être deux restaurants ou un ou deux restaurants avec un chef japonais.
Alors qu'aujourd'hui, ça s'est bien développé.
Aujourd'hui, c'est bien développé, oui.
Bon, j'ai une tradition dans mon podcast. J'ai fait une interview dans l'interview que j'appelle l'aller-retour. Il faut répondre du tac au tac.
Ok.
Ton âge ?
40.
Ton plat signature ?
Foie gras au miso.
Ton plat préféré à manger ?
Des koroke, qui sont des boulettes de viande japonaise avec de la pomme de terre.
Le chef que tu admires le plus ?
Eda Kuni, le chef de Gilo Gilo.
Ton ingrédient préféré ?
Gingembre.
Ton ingrédient détesté ?
J'ai oublié le nom. Le Dorian.
Ah.
Pourquoi le Dorian ? C'est parce que beaucoup de gens n'appellent le Dorian, mais mon père adore ça. Et donc, il me forçait à manger ça, je le déteste.
Ton ustensile fétiche ?
Les baguettes, forcément.
Ton dernier meilleur repas ?
À la grenouillère.
Pas mal. Moi aussi. Le meilleur compliment qu'on t'ait fait ?
Il est bon, ce saké.
Et la pire critique ?
Il est mauvais, ce saké.
Il y a des gens qui t'ont dit ça ?
Oui, bien sûr, hein, y en a pour tous les goûts. Et puis il y a différents sakés, donc ça arrive que parfois on sert un saké qui ne plaise pas forcément à la personne.
Et tu sers des sakés chauds des fois ?
Oui, bien sûr, oui. Encore une fois, c'est quelque chose que j'ai réappris à connaître. Au début, je pensais que c'était que les mauvais sakés qu'on chauffait, mais maintenant j'ai compris comment expliquer qu'il n'y a pas que des mauvais sakés, mais aussi des sakés qui sont destinés à être chauffés et qui sont très bons.
Et les pétillants, ils sont bons ?
Et les pétillants sont pas mal, mais...
je trouve que c'est assez flatteur, en fait, au palais, tu vois. Il y a un côté assez accessible.
Ça dépend, en fait, de ce qu'on attend du pétillant. Mmh. Moi, j'adore les sakés pétillants, mais je les comparais pas à champagne.
Non. Non, mais je trouve que ça passe... Enfin, tu vois, c'est assez facile à
Moi, ce que j'attends d'un saké pétillant, c'est quelque chose de rafraîchissant, d'assez frais. Effectivement, sur ce genre de saké pétillant qui cherche pas la complexité, j'adore ça. Après, si on doit le comparer à des grands champagnes, peut-être un jour, mais je trouve que ça manque encore un peu.
Et les sakés français ?
Alors, les Larmes du Levant, qui est un saké qui est fait dans la région lyonnaise, j'adore. Et le reste, je connais pas encore bien assez.
Mais il y en a. Parce que c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait plusieurs marques qui s'étaient lancées. Ça date d'il y a quelques années, mais...
Ça fait 2-3 ans maintenant. Et il y a peut-être 3-4 marques en France maintenant qui sont lancées. Et les Larmes du Levant, que j'ai pu rencontrer Grégoire à nombreuses occasions, je trouve que c'est vraiment super ce qu'il fait. Ouais.
Ça, est-ce que ça arrive à la cheville des sakés japonais?
Carrément.
Ouais.
Pas forcément différent, parce que en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il essaie de faire quelque chose qui reste assez traditionnel dans le goût. Et ça reste unique, c'est quand même son saké, sa personnalité. Mais ça n'a rien envie à un saké japonais, du Japon.
J'avais goûté des vins japonais. Qui était après ils essayaient je pense qu'ils essayaient de faire quelque chose de très type Bordeaux. Et bon, c'était ça que j'avais goûté. Il y a sûrement d'autres choses. Mais c'est vrai que ce qui n'est pas évident, c'est quand tu essayes de copier aussi quelque chose qui est bah, à son apogée dans son pays.
T'as toujours la comparaison.
Tu vois, d'être dans la copie, des fois, ça peut être difficile et il faut réussir à trouver sa personnalité.
Moi, j'aime bien dans les... T'as beaucoup de vins japonais, en fait, qui essayent de s'adapter à une cuisine japonaise gastronomique légère. Donc, t'as beaucoup de blancs japonais qui sont vraiment très, très, très légers et qui sont très bons au Japon, surtout en été, quand il fait super chaud, hyper humide. C'est vraiment très fin et ils sont vraiment très différents. Mais après, faut pas chercher ce qu'on peut rechercher sur des vins français. Ouais. Et ça, j'aime bien parce que justement, ça, on aime ou on n'aime pas, mais au moins, ça a sa personnalité.
T'en sers des vins japonais ici ?
On a quelques-uns, des vins nature japonais.
Ça signifie quoi pour toi de faire ce métier ?
C'est des rencontres. C'est vraiment beaucoup de rencontres. Avec les gens qui y travaillent, avec les gens, les fournisseurs, avec les clients. Et c'est pour ça que j'adore ce métier, c'est parce que ça reste un métier quand même qui est très humain, où il y a finalement peu de machines, où on emploie beaucoup de monde, on reçoit beaucoup de monde. Donc voilà, ça reste quelque chose de très très humain, je trouve, comme métier.
T'as pas emporté un petit robot du Japon pour faire le service ?
Non.
Je te dis ça, mais peut-être que ça n'existe pas encore. Mais...
Ils essayent, ils essaient de faire des choses, mais les Japonais adorent les robots. mais même si un jour on arrive à avoir des robots, il y aura quand même toujours des humains, il n'y aura pas que des robots.
Et qu'est-ce que tu cherches à transmettre ?
Bah encore une fois, je pense que plus ça va et moins on aura d'occasion de rencontrer des gens, puisque on peut presque, par rapport à avant, je pense qu'on sort beaucoup moins. Il y a Internet, on peut télétravailler, on peut rester sur son téléphone toute la journée.
Avoir l'impression de voir des gens.
On peut, oui, voilà. Ouais. Et le restaurant, c'est quand même un moment où on dépose les armes, où les téléphones en général sont rangés, où on a l'occasion de parler. C'est aussi une occasion, c'est aussi des occasions où on peut parler de choses légères comme des choses sérieuses. Et nous, tout ce qu'on fait, c'est fluidifier ces moments-là. Il y a des gens qui viennent pour proposer quelqu'un en mariage, d'autres qui viennent après un deuil, d'autres qui viennent parce qu'ils ont gagné, ils ont décroché une signature, ils ont gagné un match, je sais pas. Mais tout ça, c'est quand même des moments qui sont importants parfois dans la vie de certaines personnes, et nous, on essaie de pas les gêner, et tout en les accompagnant, donc je trouve ça bien. Et on n'a pas vraiment un message à faire passer, mais plutôt on essaie de faire de fluidifier les messages que les gens essaient de faire passer.
Et quand même de faire découvrir une culture.
Ouais, mais encore une fois, pour moi, ça vient un peu en second plan. Enfin, forcément, c'est notre marque. On essaye d'être un peu différent avec le saké, avec les cuisiniers japonais et avec cette culture japonaise que j'aime beaucoup. Mais ça reste quand même... Les gens viennent au début pour ça, mais une fois qu'ils sont assis, c'est pas la raison première. On vient surtout pour la convivialité.
Quand on tape ton nom sur Google, le premier truc qui apparaît, c'est conseiller en gestion des affaires à Paris. C'est comme ça que tu te présentes C'est marqué en gros, vraiment.
Oui, je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais fait vraiment attention. Mais parce que je fais beaucoup de conseils, et j'ai aidé pas mal de chefs japonais à s'implanter sur Paris, et je continue à le faire.
Ouais, tu as aidé Aishi et Dakuni.
Ouais.
Okomusu aussi.
Exactement, oui.
Et Musubi.
Musubi, oui.
Musubi. Et d'autres encore.
Exactement.
Dont on ne connaît pas le nom. Tu continues, ouais.
Et je continue encore.
Ouais, tu les aides sur toute la partie administrative.
Ça dépend des profils. Ouais. Il y en a qui parlent mal français, donc du coup, j'essaye de les aider effectivement beaucoup sur la partie administrative, mais d'autres qui se débrouillent très bien, mais qui ont besoin de conseils par rapport à mon expérience. Donc ça va de la création de société à la recherche de lieux, à aider sur le concept, ou tout simplement parfois à présenter des gens.
Concrètement, comment tu sélectionnes les projets sur lesquels tu bosses ?
Bah déjà, il faut que je m'entende bien avec la personne, mais ça, c'est normal. Et après, J'aime bien les projets où c'est pas un copier-coller, où on essaie d'apporter quelque chose de nouveau. Comme pour pas mal de choses, notamment, notamment parler de saké, moi ce qui m'intéresse c'est les choses qui ont de la personnalité.
Du coup, comment t'articules tout ça dans tes journées, dans ton organisation ? Aujourd'hui, tu vois, t'as deux gros établissements à gérer et par rapport à ton conseil, tu t'organises.
Après, moi, non, j'ai un orga fixe. Hein. J'ai des jours pour ce restaurant, des jours pour l'autre restaurant, des jours pour l'administration, des jours pour rencontrer des gens. Si c'est pas un minimum cadré, c'est ingérable. Hein.
Et qu'est-ce qui t'amuse le plus dans tout ça ?
Okay, tout m'amuse, sinon je le ferais pas. J'aime beaucoup mon métier, mais. Non, ce que j'aime beaucoup, c'est manger avec le personnel. parce que ils font des super repas pour eux, donc du coup, autant en profiter. Et puis comme maintenant, je fais beaucoup moins de services par rapport à avant, c'est un des rares moments où je peux être avec eux.
J'allais te demander si tu participais encore au service un petit peu.
Non, plus beaucoup maintenant.
On peut pas tout faire.
Pas tout faire, oui.
Bon, tes prochains projets, alors tu parlais de 1000 mètres carrés,
c'est dans le pipe, surtout
en ce moment.
Bon. Les grands établissements, non, je suis vraiment très content de là où je suis. Les prochains projets, pour l'instant, je voudrais déjà accomplir, parce qu'on est encore qu'à mi-chemin par rapport au saké, par rapport à pas mal de choses. Même le soja, ça fait que 10 ans, donc j'espère que ça va continuer, donc... puis avec ce qui se passe en ce moment, je me donne le temps de réfléchir, mais je voudrais vraiment consolider tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et puis le saké commence à prendre, les gens commencent à apprécier le saké, donc c'est dommage de partir sur autre chose alors qu'enfin il y a une reconnaissance du produit.
Donc continuer à creuser le saké.
Exactement, continuer.
Avec le, bah t'avais inventé, j'allais dire, créé la saké week, enfin je sais plus comment ça s'appelle,
le saké nouveau.
Il y avait pas la saké, non, la un événement qui se passait dans les restaurants, c'est
ça c'était le saké nouveau, c'est maintenant ce sera la quatrième année, c'est l'année prochaine, ça se passe au mois de février, le premier jeudi du mois de février, donc forcément on s'est amusé, on fait un clin d'œil au Beaujolais nouveau, donc sur les premières presses de saké qui arrivent en général en début d'année. Et on travaille avec une quarantaine, cinquantaine de restaurants sur toute la France pour faire découvrir différents types de saké à travers des accords, à travers les sommeliers.
Ça, vous allez continuer ?
Et ça, on continue, bien sûr.
C'est cool. Bon, dernière petite question traditionnelle, c'est que je demande une recette à mes invités, une recette qu'on peut faire à la maison.
Après, c'est vraiment très simple. Hein. Si un truc que j'aime beaucoup faire, on parlait de pétillant, j'aime utiliser des liqueurs de yuzu avec le champagne. C'est quelque chose que je fais souvent, que j'aime bien, et c'est à portée de tout le monde. Donc, c'est des liqueurs de yuzu qui est un citron mandarine japonais très concentré. Et juste une goutte avec du champagne, c'est excellent.
Un apéritif.
Ouais.
Merci, Yulin.
Je t'en prie, merci beaucoup.
Vous venez d'écouter Yulin Lee, épisode 10 de la saison 4. Pour découvrir ces restaurants, rendez-vous à la Maison du Saké rue Tiquetonne à Paris 2e et au Solar rue de l'Hôtel Colbert à Paris 5e. Vous pouvez écouter les précédents épisodes sur votre appli podcast préféré ou sur le site apoil-lepodcast.com et n'oubliez pas de vous abonner au compte Apoil Podcast sur Instagram pour ne manquer aucune nouveauté. Cet épisode a été monté par Garance Munoz, musique par Santiago Walsh. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'Apoil.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.